Merci. Merci de nous avoir conduits dans ce temps de louange, dans ce temps dans la présence de Dieu. La terre est remplie de sa gloire. Est-ce qu'on le voit toujours? Est-ce qu'on le voit toujours quand on vit notre vie de tous les jours? Est-ce qu'on voit que la gloire de Dieu est là? La gloire de Dieu est au milieu de nous. C'est vrai, on a parlé d'héritage la semaine passée. On va continuer aujourd'hui, on va continuer de parler d'héritage. La semaine passée, on a pris l'histoire du jeune homme riche qui va trouver Jésus parce que, en l'écoutant, en voyant ce qui se passe, il réalise qu'il lui manque quelque chose. Il est riche matériellement, il n'a pas de souci à se faire, mais il a un vide au fond de lui. Et la question qui pose à Jésus, c'est « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Alors Jésus lui cite une partie des commandements. On l'a vu dimanche passé, « Tu ne commettras pas d'adultère, pas de meurtre, pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Tout un programme. Hein. Puis le jeune homme lui répond, « Mais tout ça, moi je le fais depuis mon plus jeune âge. C'est quelque chose qui est au fond de moi, qui me tient à cœur. » Mais il me manque quelque chose, il y a quelque chose, même avec ça, qui me manque, qui n'est pas là. Et c'est là que Jésus le place face à la réalité, face à sa réalité. Ton héritage terrestre, c'est ça qui t'empêche d'entrer dans ton héritage céleste. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Est-ce que c'est ta sécurité matérielle d'aujourd'hui? Ou est-ce que c'est la perspective éternelle que je veux te donner et que tu peux déjà vivre aujourd'hui? C'est la question que Jésus lui pose. Et cette perspective, on l'a vu dimanche passé, c'est bien plus que simplement d'être sauvé. C'est la perspective de pouvoir vivre aujourd'hui déjà, ici sur cette terre, la réalité de la vie éternelle, la réalité du royaume de Dieu. Alors notre jeune homme, il est reparti tout triste parce que sa richesse, c'était sa vie. Le problème pour ce jeune homme, c'était sa richesse parce qu'elle faisait son identité. Mais il y a tellement d'autres choses qui peuvent faire notre identité, devenir notre idole, et puis finalement, on s'identifie à ça. Et ce n'est pas Jésus qui est à la première place. Alors ce matin, il y a certaines choses, je pense, qui vont se répéter par rapport à ce qui a été dit dimanche passé, peut-être d'une autre manière. Mais on va encore s'arrêter sur cet héritage de la vie éternelle, cet héritage du royaume de Dieu. Alors la première partie de cet héritage, et on l'a vu dimanche passé aussi, c'est « Je suis sauvé, donc j'ai la vie éternelle. » Merci Seigneur, parce que c'est vrai, c'est mon héritage m'attend dans le ciel, c'est vrai. Et puis là, j'avais envie de prendre une chaise longue, on pourrait s'asseoir, tranquille, on a notre vie éternelle, on est bien, on est bon, on a fait le bon choix. Et puis on peut constater qu'il y en a d'autres, ils en sont pas encore là, ils ont encore du chemin à faire. Mais voilà, on est tranquille, on a notre assurance. Et ça m'a fait penser à la parabole des serviteurs à qui le maître confie ses richesses. Tous font fructifier ce que le maître leur donne. Et un seul de ses serviteurs, lui, il va cacher l'argent que le maître lui a donné. Il va le cacher parce que, comme ça, au moins, il ne perdra rien. Et puis, il peut être tranquille en attendant son retour. Et puis, quand le maître arrive, à un moment donné, il voit passer tous ses collègues avec ce que le maître leur avait donné, mais en plus, tout ce qu'ils ont fait fructifier. Et là, tout à coup, il réalise que, ouf, je crois que j'ai loupé quelque chose. Mais c'est trop tard pour lui, parce que quand il est face au maître, ça va plutôt mal se passer pour lui. Et parfois, on est un petit peu dans cette attitude, je crois. On a la vie éternelle, on a ce qu'il nous faut, on a la base, puis on est tranquille. Mais le réveil peut être dur à un moment donné. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience, ou bien prendre en tout cas davantage conscience, que cet héritage qui est la vie éternelle, ce n'est pas juste « je suis sauvé, j'ai la clé dans ma poche », elle est là. Et que le royaume de Dieu, c'est pour après. c'est pour l'au-delà, c'est pour après l'amour. Alors qu'on soit bien clair, le salut, c'est un super héritage et c'est la base. Même si l'enfer se lève, même si la mort se lève, si les démons m'attaquent, je suis sauvé parce que Jésus a payé le prix pour ma vie à la croix. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est la base. C'est la réalité. Mais il y a beaucoup plus dans cette notion de vie éternelle, de royaume de Dieu. Et je crois que si nous, ici, on réalisait vraiment l'héritage que nous recevons en devenant enfants de Dieu, mais on sauterait de notre chaise. On ne pourrait pas rester comme ça tranquille. Quand on chante, la terre est remplie de sa gloire. C'est la réalité. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on voit plutôt? Tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est dur. Et puis on se plaint. Et puis c'est difficile. C'est vrai. Mais le royaume de Dieu est là. La terre est remplie de sa gloire. Alors ce matin, on va prendre deux textes dans l'évangile de Luc. Luc 9. À partir du verset 1, on va voir que les disciples de Jésus, eux aussi, à un moment donné, doivent aller plus loin. Les versets 1 à 6 du chapitre 9 et le verset 10. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de chemise chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils partirent et allèrent de village en village, ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Et au verset 10, à leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Jésus, à un moment donné, rassemble ses disciples. Il les convoque. Il a quelque chose d'important à leur dire. Il a quelque chose d'important à leur communiquer. Et c'est un moment important parce que quand on voit un petit peu tout ce qui se passe dans l'évangile de Luc, Florence nous en avait parlé, jusqu'au chapitre 9, les disciples, ils suivent Jésus. Ils le voient faire des miracles, ils le voient guérir des malades, ils le voient chasser des démons, ils le voient ressusciter des morts, ils l'entendent enseigner, mais ils suivent Jésus, ils sont derrière, ils suivent et ils regardent faire. Ils sont toujours dans l'observation, dans le retrait. Un peu comme nous parfois, comme moi souvent en tout cas. Quand Jésus fait et que nous on suit, c'est génial, non? On le laisse faire et on suit, on regarde. Et on le loue parce qu'il agit, et il agit. Et j'aime quand j'ai rien à faire, que j'ai qu'à regarder le Seigneur qui agit dans les vies, qui agit autour de moi. Mais ici dans ce texte, Jésus veut faire comprendre à ses disciples que la puissance de Dieu peut se manifester aussi au travers d'eux et que c'est le moment pour eux de se lever et de prendre leurs responsabilités. Et Jésus leur donne, il leur donne la puissance, il leur donne l'autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Alors il leur donne aussi des directives. Ne prenez rien, ne vous appuyez pas sur autre chose que ce que moi je vous ai enseigné. Que ce que je vous donne, que ce que je vous confie ce matin, aujourd'hui. Recevez ma puissance, recevez mon autorité. Et les disciples, ils y vont, ils partent. Et vous savez quoi, ça marche. Ça marche. Quand ils reviennent, ils racontent à leur maître tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont fait. Et là, vous me voyez venir un petit peu avec mes grandes questions, là où on remet tout le monde en question. Vous allez me dire, ouais, mais bon, attends, c'est les 12 disciples. Ils ont eu 3 ans de formation, à plein temps. C'est pas pour rien si Jésus a attendu 3 ans pour les laisser partir. Alors dans cette salle, qui a fait 3 ans de formation biblique? Alors il y a une personne qui est en route, qui va y arriver. Est-ce que quand elle y sera arrivée, on la nommera déléguée au miracle de l'Église? Je crois que le Seigneur ce matin veut nous faire comprendre que ce n'est pas réservé à une élite. Et ce n'est pas réservé à une élite simplement en prenant le chapitre suivant, le chapitre 10. Parce que dans le chapitre 10, Jésus refait la même chose. C'est le moment où Jésus va partir, monter pour Jérusalem, où il va monter pour vivre toute la Pâque, où il va donner sa vie, où il va mourir sur la croix, et il va envoyer des personnes devant lui pour y préparer le chemin. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Septante autres disciples. Vous pouvez chercher, vous n'allez pas trouver, non. C'est qui? On ne les connaît pas. Ça fait combien de temps qu'ils suivent Jésus? Parce que c'est ses disciples, ils sont là, ils le suivent. On n'en sait rien. Mais ils sont envoyés. Ils sont envoyés de la même manière que les 12 ont été envoyés. Et ils ont une mission bien précise. Préparer le terrain pour la venue de Jésus. Jésus va venir. Et ils vont préparer ce terrain au travers des guérisons qu'ils vont opérer. Guérir les malades. Annoncer que le royaume de Dieu est proche, il est là. Il est à portée de main. Il est tout prêt. Ses disciples sont porteurs de l'héritage de Dieu. Eux l'ont reçu, ils le manifestent, ils le partagent autour d'eux. Jésus va venir, soyez prêts à l'accueillir, à le recevoir. C'est le message qui est délivré au travers des miracles, mais aussi au travers de la parole qui est annoncée. Dans ces deux épisodes, on voit Jésus qui appelle ses disciples. Ses disciples, c'est ses suiveurs, ceux qui le suivent, pour qu'ils prennent possession de leur héritage. Et moi, je crois qu'on peut le dire comme ça. Jésus fait de ses disciples ses associés. Il les associe à son ministère. Et ça devait être quelque chose de, je ne sais pas comment dire, de jubilatoire pour eux de réaliser qu'ils ont la même autorité que Jésus. L'autorité qui est sur Jésus, elle est sur eux. Quand ils font face à la maladie, quand ils font face aux esprits démoniaques, cette autorité de Jésus, elle est sur eux. De réaliser ça, mais ça doit être quelque chose de... Oui, d'impensable. Et quand ils retournent vers Jésus, ils lui disent, mais tu te rends compte, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et à partir du verset 17, Jésus valide cette réalité. Il leur dit, oui, c'est ça. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Il y a une réalité, cette réalité, elle est là. Il se passe quelque chose. Quand les disciples de Jésus prennent autorité, ils prennent vraiment autorité au nom de Jésus. Il se passe quelque chose. Et on peut très vite être tellement fier de ce qu'on peut faire, de ce qu'on arrive à faire. Waouh ! J'ai guéri celui-ci, j'ai guéri ce malade, j'ai fait tout ça en ton nom, Jésus, mais je l'ai fait. Je l'ai fait en ton nom. Et Jésus leur dit quelque chose de tellement important. Le plus important, ce n'est pas que les démons vous soient soumis, que les malades soient guéris. Le plus important, c'est que vos noms sont inscrits dans le ciel. C'est ça qui fait de vous des héritiers de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il y a des manifestations qui se passent après, c'est les conséquences. Mais ce qui est important, c'est que vos noms sont inscrits dans le ciel. Ton nom est inscrit dans le ciel. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ces deux textes ce matin pour nous, personnellement, pour nous en tant qu'Église, ici, à la Chaux-de-Fonds ? C'est vrai qu'entre cet épisode-là, ce qu'on vient de lire comme histoire, et aujourd'hui, il s'est passé un événement central. Jésus allait monter à Jérusalem pour donner sa vie. Et il y a une phrase de Jésus sur la croix, c'est Jean qui la relate cette phrase, où Jésus dit à un moment donné, « Tout est accompli. Tout est accompli. » Et aujourd'hui, on a cet héritage de Jésus, cet héritage du « Tout est accompli. » Quel que soit mon besoin, quel que soit mon défi, mon interrogation, mon état de santé, quel que soit ce que je vis, toutes les solutions sont en lui. Sont en Jésus, tout est accompli. Et c'est une base tellement solide pour nous de réaliser que, oui, Christ a tout accompli à la croix, tout. Et il y a aussi la venue du Saint-Esprit que Jésus promet à ses apôtres. Et quand il leur dit en acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le Saint-Esprit est déversé sur les apôtres, sur les croyants à ce moment-là, et de la même manière aujourd'hui encore sur les croyants, de la même manière sur nous encore aujourd'hui. Une puissance, le Saint-Esprit. Cette puissance qui nous donne autorité. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? C'était la question du jeune homme riche. Et on l'a vu dimanche passé, pour entrer dans cette vie éternelle, aujourd'hui déjà, on doit se débarrasser de nos sécurités, on doit se débarrasser de ce qui fait notre identité pour suivre Jésus et Jésus seul. Dans Jean 17, juste avant son arrestation, Jésus prie. Il prie pour ses disciples et il prie pour les futurs croyants. Et il prie pour moi, il prie pour toi. Et à un moment donné, il dit ceci, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Est-ce que tu connais ton Dieu ? Est-ce que tu connais Jésus-Christ ? Est-ce que tu le connais ? Quand on connaît quelqu'un, on peut le reconnaître d'entre mille. Si je croise Christine à Paris, alors que je ne sais même pas qu'elle y est, je saurais que c'est Christine. Pourtant, personne ne m'a dit qu'elle était à Paris. Mais je vais la reconnaître. Pour savoir si on peut faire confiance à quelqu'un, on doit le côtoyer, on doit apprendre à le connaître. Suivre Jésus, c'est le connaître, c'est apprendre à le connaître, à reconnaître sa voix, à savoir qui il est. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Paul, lui, nous parle de ce qu'on est appelé à vivre. Il nous parle de qui nous sommes appelés à être. Et il le dit dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 15. On va lire 15 à 21. Paul nous parle de Jésus et il dit « Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. On voit au verset 15. Il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Il y a quelque chose à abandonner. On a autre chose à vivre, autre chose à recevoir. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, on a à vivre pour Jésus, celui qui est ressuscité pour nous. Ce qui s'est passé est derrière. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature en Christ. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es une nouvelle créature en Christ. Parce que, au travers de ce tout est accompli de la croix, je suis réconcilié avec Dieu, avec mon Créateur, avec mon Papa. Est-ce qu'on réalise l'héritage? Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Je suis réconcilié avec lui, alors que le péché me séparait totalement de lui. C'est un héritage inépuisable, inépuisable pour nous. Parce qu'en Jésus, tout est accompli. Tout. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Plus rien. Et Paul nous appelle à partager autour de nous cet héritage. On est porte-parole de Christ, on est ses ambassadeurs. Vous imaginez le rôle qu'on a, on est ses représentants. Et notre rôle, c'est de dire autour de nous, mais soyez réconciliés avec Dieu. Et pas simplement le dire une fois. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre appel. Dimanche passé, on a pris un texte de Romains 8, qui est un petit peu le texte central de toute cette notion d'héritage, selon moi. Je vais le reprendre, c'est Romains 8. En effet, Romains 8, 14, pardon. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je ne vais pas redévelopper ce verset ce matin. Mais quand même, juste rappeler qu'on n'est pas juste des chrétiens. Je ne suis pas juste chrétien. Tu n'es pas juste chrétien, chrétienne. Tu es enfant de Dieu. Tu es héritier, héritière de Dieu. Ce Dieu qui n'a pas de limite. Ce Dieu à qui rien n'est impossible. Et quand on réalise qu'on est co-héritier avec Christ, en fait, ce que Dieu a donné à Jésus, il nous le donne. L'héritage est sur Jésus, mais l'héritage est aussi sur ma vie. Et je crois qu'on doit vraiment prendre conscience que cet héritage est pour nous, pas juste comme une promesse pour l'au-delà, mais on est appelé à le vivre ici, sur cette terre, aujourd'hui, dans les conditions que l'on vit aujourd'hui. Jésus veut qu'on soit associé à lui. Il a appelé ses disciples pour qu'ils s'associent à lui dans son ministère. De même, il veut que nous nous associons à lui. Jésus nous appelle à faire venir le règne de Dieu là où on se trouve. Ce n'est pas le moindre héritage. Hein. On est appelé à faire venir le règne de Dieu là où on se trouve, là où Dieu nous place. Quand on se rassemble en son nom, ici, Jésus est au milieu de nous. Donc, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Sa manifestation est au milieu de nous. Seigneur, je veux voir ton royaume se manifester ici, au milieu de nous, dans ton Église, dans ma vie, dans ma famille. C'est mon héritage. Et c'est pour ça que je peux réclamer cet héritage. Il est à moi. Je veux voir ton royaume se manifester. Dans Éphésiens 2, 6, il est dit, « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Vous êtes bien assis sur vos chaises. Mais en même temps, vous êtes assis avec Christ. Vous êtes drôlement mieux assis là, je vous promets. Assis avec Christ dans les lieux célestes. On est dans le royaume de Dieu. On y est. Alors regardons autour de nous et réalisons dans quel royaume Dieu nous introduit. On est dans ce royaume. Si on arrive à réaliser un tout petit peu, on ne réalisera jamais tout, mais de réaliser un tout petit peu les conséquences, ce que ça veut dire pour nous, ce que ça change pour nous. Et pour que ces mots deviennent réalité pour nous, on ne peut pas simplement rester fixé sur nos réalités terrestres, sur ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Mais on doit être fixé sur ce que Dieu veut faire aujourd'hui, en nous et autour de nous. Parce que dans ce monde, Dieu veut agir. Dans ce monde, Dieu veut que les choses changent. Dieu veut établir son royaume. Et quand Jésus rassemble ses disciples, on l'a vu, il veut leur faire comprendre que s'il les a appelés, ce n'est pas juste pour qu'ils soient spectateurs, qu'ils voient comment lui fait, que c'est vraiment Dieu. Il veut qu'ils deviennent acteurs du royaume de Dieu. Est-ce que je suis acteur de ce royaume? Est-ce que je vis la puissance du royaume là où Jésus m'envoie, là où il m'enverra? Les disciples, ils le vivent. Et quand on le lit, on a l'impression qu'ils les vivent tellement simplement. Ils font et ça se passe. Et ils sont réjouis. Et parfois, on a l'impression qu'on doit lutter, lutter, lutter et que rien ne se passe. On a encore à apprendre. On a encore beaucoup à apprendre, je crois. Ce matin, Jésus veut nous rassembler autour de lui. Et veut nous appeler à prendre possession de notre héritage. L'héritage que Dieu nous a donné, on n'y est pour rien, nous. C'est Christ qui a tout accompli. Mais cet héritage, il est là. Il est là pour nous. Cet héritage qui va nous faire aller plus loin, qui va nous conduire dans quelque chose qui n'a rien de terrestre, rien d'humain. C'est quelque chose de céleste, mais qui doit se manifester ici, au milieu de nous, sur cette terre. Jésus a appelé ses disciples à devenir des associés. Et moi, des fois, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a besoin de nous? Franchement, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de moi? Moi, c'est compliqué à comprendre. Franchement, tu as besoin de moi. Dieu, un Dieu puissant, sans limite. Moi, un petit Neuchâtelois, perdu sur ma montagne. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Je pense qu'on s'est déjà tous posé cette question. Et si on se pose cette question, on peut très bien en rester là et dire, mais finalement, non, moi je ne suis pas capable. Moi, non. On va rester suiveur. On ne va pas t'abandonner, Seigneur. Non. Mais on va rester suiveur. Je veux rester suiveur. C'est tellement plus agréable. Toi, tu fais tellement bien les choses. Tu les fais parfaitement. Suiveur de Jésus. Seigneur, tu fais. Moi, je suis derrière et je regarde. Et je me réjouis de ce que je vois. Toi, tu es en avant. Alors, l'humilité, c'est bon. Laisser le contrôle à Dieu, c'est bon. Mais il faut faire attention à ne pas basculer dans le Seigneur, c'est toi qui fais. Jésus, c'est toi qui fais. Et puis moi, je ne ferai jamais rien. Je suis appelé à me lever. Pourquoi Jésus a besoin de moi? Il l'a décidé ainsi. Dieu a décidé que c'est au travers de lui que sa gloire serait au travers de lui, mais au travers de nous, que sa gloire serait manifestée sur cette terre. À un moment donné, le disciple est capable de faire comme son maître. Et j'ai noté deux, trois choses. J'ai hésité à vous les partager parce que pour moi, c'est un énorme défi. Mais c'est la réalité. Est-ce que j'en parle? J'en parle pas. Mais oui, je dois en parler parce que ça me concerne, mais ça nous concerne tous. Parce qu'il y a tellement de domaines où je réalise que je suis juste un suiveur. Donc ça me concerne moi premièrement. Jésus nous dit dans sa parole, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez même de plus grandes. Jésus veut nous associer à lui. L'héritage qui est sur lui, il le met sur nous. On l'a vu tout à l'heure, on a le même héritage que lui, on est co-héritier de Christ. Alors concrètement, quand je prie pour les malades, Dieu entend ma prière, comme il entend celle de Jésus. De même, quand je prie pour quelqu'un qui est lié, j'ai l'autorité de Jésus. Quand je me mets dans ma chambre pour prier, le ciel est ouvert et Dieu me parle. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et pourtant, je réalise que bien souvent, je suis suiveur. Ce n'est pas la réalité que je vis. Apprendre à dépendre de plus en plus de notre Dieu. Apprendre à vivre de son héritage. Laisser nos sécurités de côté. Sans se dire, mais si ça ne marche pas, j'ai l'autorité de Jésus. Jésus veut agir au travers de moi. Il y a un texte dans Actes qui m'a toujours... j'ai toujours trouvé génial, puis je me dis, mais ça, je veux le vivre. C'est dans Actes 15, le verset 28. Simplement un petit bout du verset. À un moment donné, quand les apôtres doivent prendre une décision, il est dit à un moment donné, « Il parut bon au Saint-Esprit et à nous. » Puis voilà, ils ont décidé ensemble. Ils étaient ensemble autour d'une table, ils ont discuté, Oui, ils ont parlé et puis ils se sont mis d'accord. Une décision ensemble, comme si c'était des collègues. On ne travaille pas pour Jésus. On est appelé à travailler avec Jésus. Et c'est un peu comme une révolution quand on réalise ça. Parce que combien souvent, combien facilement, on est simplement, Jésus c'est toi, moi je reste derrière. Dans Matthieu 5, Jésus dit, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Partagez cet héritage encore. Alors les bonnes œuvres, ça peut être nourrir les pauvres, accueillir les personnes seules, porter des courses à une personne âgée. Ce n'est pas juste ces bonnes actions-là, parce que ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde le fait. Il y a bien plus que ça. Dans Luc 4, quand Jésus prend le rouleau et il lit Ésaïe, il lit ce texte-là, qui est pour nous aussi, je crois, ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Moi, quand je vois ce programme, je dis, ouais, Seigneur, j'ai encore du chemin. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais tu m'appelles à ça. Tu m'appelles vraiment à ça. Est-ce qu'on laisse l'Esprit du Seigneur agir sur nous? Est-ce qu'on le laisse librement agir sur nous? Très vite, mes sécurités, je les reprends. Très vite, je veux m'appuyer sur quelque chose de solide, que je sais que je peux m'appuyer dessus, d'humain. Je me tiens là pour ne pas tomber. Je me tiens, comme ça je reste debout. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous guider, qui doit nous conduire. Son Esprit en nous. Alors je vais prendre un dernier texte pour ce matin. Mais ce texte répond à cette question, pourquoi est-ce que Jésus a besoin de moi? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous? Dans 1 Corinthiens 2, les versets 26 à 29. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Si on croit qu'on est quelqu'un, si on croit qu'on a un peu d'envergure, il y a déjà un problème. Si je suis appelé, si Dieu veut m'utiliser, il sait aussi qui je suis. Il sait que je ne peux pas. Il sait que par moi-même, je n'y arrive pas. Il veut qu'on le comprenne, ça, que toutes nos sécurités, elles ne nous servent à rien, vraiment. Nos sécurités, elles faussent la donne. Elles nous font partir de travers. Dieu veut agir, veut montrer sa puissance au travers de nos faiblesses. Et c'est là qu'on peut aller comme les disciples, sans se poser de questions. On sort et on fonce. Facile à dire, hein? Mais c'est ce que le Seigneur veut qu'on soit, des fonceurs. Allez là où il nous conduit. On y va, on ne se pose pas d'autres questions, on y va. Dieu se plaît à se manifester dans les choses folles. Mais qu'est-ce qu'il faut lâcher prise? Mais qu'est-ce qu'il y a besoin de lâcher prise? Jésus ne nous laisse pas partir comme ça n'importe comment. Jésus a appelé ses disciples à lui ressembler. Il nous appelle à lui ressembler. Il dit à ses disciples, vous m'avez vu faire, maintenant faites et soyez comme moi. Pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire être comme Jésus en sainteté, en consécration, être consacré à notre Dieu, en prière. Jésus est un exemple de prière. Et tout ça, c'est juste. Jésus est mon modèle dans ma relation avec Dieu, dans ma relation que j'ai à vivre avec Dieu. C'est tellement important. Mais il y a un deuxième volet, Jésus nous montre aussi comment on doit se comporter dans toutes les situations. Il est mon modèle en tout temps. Mon modèle. Et chaque fois que je fais face à une impossibilité, je suis appelé à lui faire confiance, à regarder à Jésus. Seigneur, là, toi tu ferais quoi? Tu aurais fait quoi? Ok, alors on y va. Il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes. Cette relation avec Jésus, cette relation à Dieu, c'est la base. Pour pas qu'on aille n'importe où, mais qu'on reste sur ce chemin que Jésus a prévu pour nous, que Dieu a prévu pour nous, dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Seigneur, moi je veux te dire merci. Merci parce que tu es venu nous ouvrir la route. Merci Seigneur parce que oui, on peut être tes suiveurs pour apprendre de toi. Et tu veux, Seigneur, que, comme tu as appelé les disciples à te suivre, nous te suivions. Mais si tu veux que nous te suivions, c'est pour que nous allions plus loin encore. Qu'à un moment donné, nous nous levions avec toi et que nous nous levions en ton nom. Et ce matin, Seigneur, tu m'appelles et tu nous appelles à être debout en ton nom, à nous lever, à laisser nos confiances, tout ce qui nous fait confiance, de côté, pour placer notre confiance en toi et te laisser nous guider, nous conduire, nous parler. Merci parce que, Saint-Esprit, tu as été envoyé et tu es là au milieu de nous. Tu es là sur chacune de nos vies. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Qu'on puisse être attentif à ta voix. Qu'on puisse être attentif à ce que tu veux nous montrer, ce que tu veux nous dire. Merci Seigneur de nous remplir de ton autorité, ta seule autorité. Et Seigneur, ce matin, on veut se réjouir. On veut se réjouir parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Seigneur, mon nom est inscrit dans ce livre. Et parce qu'il est inscrit dans ce livre, Seigneur, je peux y aller, je peux me lever en ton nom. Seigneur, que ce matin, nous puissions nous lever en ton nom et agir en ton nom. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies, fais ton œuvre dans l'Église, fais ton œuvre au milieu de nous. Transforme nos vies, change, Seigneur, nos vies. Fais de nous, Seigneur, ces personnes qui reflètent ta gloire, qui reflètent ta grandeur, ta puissance, ton amour, ta bonté. Fais de nous ces personnes. Seigneur, moi je te bénis. Je te bénis parce que tu es là et parce que tu agis maintenant dans le plus profond de nos cœurs. Et on veut te laisser agir, Seigneur. Amen.